Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Victor Hull.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Depuis le baiser de l'artiste en 1977, son visage, son corps, son art ont fait d'elle l'une des plasticiennes et performeuses françaises les plus célèbres au monde. Elle pratique la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, mais aussi les médias numériques, la robotique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies et j'en passe. Depuis toujours, cette artiste féministe s'est efforcée de sortir du cadre en interrogeant notre rapport à l'autre et donc à nous-mêmes et au code de la société dans laquelle nous vivons. Orlan est avec nous. Elle publie une passionnante autobiographie intitulée « Les striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art ». Le livre est paru chez Gallimard dans la collection « Témoins de l'art » et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Orlan.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Dès les premières lignes du livre, vous y allez fort. Hein. Le ton est donné puisque vous racontez votre naissance et vous parlez de votre arrivée dans votre tribu. Une arrivée extrêmement mouvementée. On a l'impression que vous avez failli y passer.
Ah ben j'ai failli y passer, hein, à tel point que j'avais pris le coup de chaleur du nourrisson. Pourtant, c'était un 30 mai. Il faisait absolument chaud ce mois-là. Et donc, on m'a trempé dans de l'eau glacée pour que, effectivement, je ne meure pas.
Voilà. Et vos parents ont refusé qu'on vous donne l'extrême onction.
Quelle
ça chance, démarrait mal.
Quelle chance. Non, quelle chance.
Quelle chance qu'ils ont refusé, effectivement.
Ça, j'approuve, oui.
Bon, donc ça, c'est la naissance de la petite fille que vous étiez, du bébé. Et cette naissance, on peut évidemment la rapprocher d'une photo de 1964, une œuvre que vous avez baptisée « Orlan accouche d'elle-même ». Alors ça s'écrit « même M'AIME », précisons-le, puisque nous sommes à la radio. C'est une photo en noir et blanc, où l'on vous voit en plongée, hein, avec entre les jambes un mannequin adulte, hein, pas du tout un bébé, un mannequin adulte. On ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon. Cette seconde naissance photographique, si j'ose dire, on peut dire qu'elle l'annonce. La suite.
En tout cas, moi, je dis que je suis née en 1964, quand j'ai fait cette œuvre. Parce qu'effectivement, tout à coup, j'étais suffisamment construite pour être à peu près lucide de moi-même. Et aussi, je commençais à m'informer sur l'art et à savoir comment je pouvais me situer aussi bien dans l'art ancien que le panorama de l'art actuel.
Est-ce qu'on accouche d'une œuvre comme on accouche d'un bébé, Orlan ?
Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Et effectivement, d'habitude, je déteste ce rapprochement parce que je le sais vraiment et à mes dépens, puisque j'ai eu plusieurs avortements, je ne voulais absolument pas d'enfant et pourtant, mon corps en fabriquait envers et contre moi. Donc, c'est tout à fait différent. C'est une machine qui est en route quand on fait un bébé, un accouchement. Alors que... quand on fait une œuvre, en tout cas telle que je le conçois, on la construit, on l'élabore, on s'informe, on recoupe l'information, on lit, on analyse, on en fait la synthèse et puis tout à coup, on décide de quelle manière on va faire cette œuvre-là et on essaye de trouver la meilleure matérialité pour que l'essence de l'idée nous soit révélée.
Et vous avez l'habitude, lorsqu'il s'agit évidemment de votre travail artistique, d'enfanter dans la douleur ou pas ?
Je suis souvent dans les affres de la création, oui. C'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est de la douleur, mais en tout cas, c'est du travail. C'est du travail et beaucoup d'inquiétude, parce que c'est effectivement comme quand on rentre en scène, quoi. C'est une entrée en scène toutes les fois qu'on fait une œuvre. Et effectivement, il y a des spectateurs que l'on respecte, avec lesquels, moi, j'aime beaucoup l'interactivité. Et aussi, on appréhende toujours sa réaction, bien que moi... J'ai une phrase dans ma vie qui m'a toujours suivie, qui vient de mes parents, et qui disait « bien faire et laisser dire ».
Bien faire et laisser dire, c'est effectivement tout un slogan, c'est presque un manifeste pour vous,
oui,
un mantra. Alors autant dire tout de suite, je parlais d'enfantement dans la douleur, que la tradition judéo-chrétienne, c'est pas tout à fait votre truc. Hein. On peut
non,
même dire que vous vous êtes construite contre cette tradition-là.
Oui, parce que vraiment, j'ai écrit un manifeste de l'art charnel en ce qui concerne, par exemple, mes opérations chirurgicales. Et pour moi, c'était vraiment très, très, très important, justement, de me différencier de l'art corporel en disant que je faisais, moi, de l'art charnel.
Voilà, parce que l'art corporel, le body art, il y a cette dimension de douleur qui n'est pas du tout dans votre travail à vous.
Voilà. Je respecte certains artistes qui travaillent comme ça, comme Marina Abramovic, Yann Fabre et bien d'autres. Mais pour moi, je pense que le corps a assez souffert pendant des millénaires. Et que effectivement, on n'avait même pas de l'aspirine pour cacher un mal de dents, et que l'idée de souffrir me paraissait vraiment absolument absurde et anachronique, parce que à l'heure actuelle, la souffrance c'est effectivement intéressant comme alarme, mais on n'est pas obligé de la douleur, c'est une alarme, mais on n'est pas obligé de prendre en option la souffrance avec. Et effectivement, on peut accoucher sous péridurale sans du tout avoir mal ou presque.
Alors, vous parliez de 1964 il y a un instant, il y a aussi une autre date importante à propos de grossesse justement. En 1980, vous faites une grossesse extra-utérine. On vous embarque dans une ambulance, Orlan, vous prenez avec vous des gens pour qu'ils viennent filmer et photographier l'opération. Et ça aussi, c'est une date importante parce que c'est le début de toute une aventure. Comment est-ce que l'idée vous est venue, comme ça, de dire à votre entourage, eh bien, venez filmer tout ça?
Alors d'abord, je pense que la vie est un phénomène esthétique récupérable. Donc,
il faut savoir la saisir.
Voilà. Donc effectivement, et souvent en la saisissant, on retourne la situation. Et moi, je dis toujours une phrase de Nietzsche qui est « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Donc effectivement, en prenant en charge avec l'art, tout à coup, on change complètement de paradigme. Donc ça me paraissait vraiment important.
Et donc, dans cette situation qui était quand même humainement particulièrement dramatique, tout de suite, vous avez eu ce réflexe,
oui,
artistique.
Parce qu'il faut vous dire que j'étais en train d'organiser, j'ai organisé pendant 5 ans un symposium de performance et de vidéo à Lyon. Et donc, j'avais travaillé toute l'année pour faire venir des artistes dont j'avais vraiment envie de voir les performances. Et tout à coup, j'ai cette grossesse extra-utérine et je suis obligé donc de m'écarter de ce festival, de ce symposium que j'avais concocté. Donc, pour moi, c'était insupportable. Donc, toutes les fois où il y avait une cassette à cette époque-là, c'était de l'humatique, un trois quarts. Ouais. En fait, on prenait la cassette dans le bloc opératoire et on allait la porter à la FNAC où, en fait, c'était montré comme une performance programmée. Alors, pendant mon festival.
Voilà, et c'est le début donc de toute une série d'opérations chirurgicales performance, hein, sous le regard des caméras. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de briser un tabou, de montrer ce qui n'est pas censé être montrable.
Voilà, d'ailleurs, il y a des chirurgiens qui n'ont pas voulu m'opérer parce qu'ils savaient que j'allais faire une œuvre où j'allais montrer pendant 40 jours ce qui se passe avec le corps dès qu'on a touché au corps et en particulier au visage.
Donc vous avez eu du mal à trouver les chirurgiens pour opérer?
C'est compliqué parce que certains me refilaient leurs cartes pour m'opérer parce qu'ils pensaient que ça allait leur faire de la publicité et que j'étais finalement une assez bonne cliente. Et ils n'avaient pas bien compris ma démarche parce que moi, je voulais surtout pas rester cute, mignonne. Ces opérations chirurgicales, principalement celle qui a été faite à New York avec une féministe, une chirurgienne féministe, et qui m'a très très bien compris, était d'essayer de faire un geste opératoire qui n'avait jamais été fait et qui surtout n'était pas censé apporter de la beauté. C'est-à-dire qu'avec cette chirurgienne, nous avons décidé de faire un geste qu'elle n'avait jamais fait et qui était de mettre des implants qu'on met habituellement sur les pommettes de chaque côté des tempes, de chaque côté du front, pour faire 2 bosses. Et donc, c'était très clair que c'était pas beau, en tout cas pas considéré comme beau.
Selon, on va dire, les normes esthétiques du moment.
Et effectivement, si nos auditeurs entendent que je suis une femme avec 2 bosses de chaque côté du front, tout le monde va penser que je suis un monstre absolument indésirable. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, quand on me voit, d'abord, ça peut changer. Ça ne change pas à tous les coups. Mais en tout cas, ces bosses, au fil du temps, sont devenues des organes de séduction et sont devenues ma décapotable.
Oui, alors et vous dites dans le livre, pour moi, je vous cite, hein, pour moi, la séduction physique était manipulation et instrumentalisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas séduire aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, sans prendre en compte les normes de cette société-là. On est obligé d'être comme les autres pour pouvoir séduire ?
Non, pour séduire, c'est sûr qu'il y a des normes, c'est complètement normalisé, et il y a des codes, et il y a des modèles qu'on vous propose. Par exemple, j'ai fait une œuvre qui est actuellement exposée au musée du Quai Branly, dans la très belle exposition de Philippe Dagen, Ex-Africa, et c'est une femme qui a d'énormes labrets, et donc c'est une photo ethnographique. Vous savez, les premières photos où on allait photographier l'autre, et cette femme a l'air mais tellement sûre de sa séduction, tellement heureuse, alors que si à l'instant on se faisait mettre des labrets, que ce soit vous ou que ce soit moi, on serait considéré comme des monstres absolument imbaisables. Mais à cette époque-là, dans cette situation-là, dans cette tribu, eh bien, au contraire, plus on avait de grands labrets, plus on était désirable, plus on pouvait faire bander les mecs. Donc, cette femme est très sûre de sa séduction. Parce que, effectivement, dans sa société, c'était ce modèle-là. Donc, je démontre avec ça que la beauté, en fait, n'est qu'une affaire d'idéologie dominante en un point donné géographique et historique.
Amadou et Mariam sur RFI avec une grosse pensée et un plein soutien aujourd'hui au journaliste Olivier Dubois, enlevé captif depuis 2 mois jour pour jour au Nord-Mali. Comme lui, Orlan, comme nous tous, vous aimez profondément l'Afrique. Hein. Vous racontez d'ailleurs dans le livre quelques déplacements, pas piqués des verres, comme on dit, en autostop. Hein, beaucoup de souvenirs, beaucoup de
sur les camions de sel.
Très belles sur les camions de sel. Et vous écrivez, Orlan, l'Afrique m'a beaucoup appris. Que vous a-t-elle appris ?
C'est énorme, et parce que effectivement, l'attitude était tellement différente. On voyait des gens, enfin j'ai vu des gens extrêmement pauvres, extrêmement démunis, qui vous donnaient tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que l'hospitalité, c'était quelque chose d'absolument intégré à leur vie. Et en plus, Donc, ils étaient souvent dans des situations très, très difficiles. Et il y avait une joie de vivre absolument incroyable qui prenait le dessus sans cesse. Et on chantait, et on riait, et c'était pour moi une leçon, un exemple, quoi, de voir que la plupart du temps ici, on rouscaille, on se plaint, on grogne pour la moindre chose. Alors que là, je me suis retrouvé devant des personnes d'une qualité pour moi exemplaire, quoi, qui étaient capables de comprendre que vivre, c'est vraiment quelque chose de fabuleux.
Et vous vous êtes évidemment imprégné de tout ça. Est-ce que l'Afrique vous a donné, vous le lui avez rendu à travers plusieurs de vos œuvres. Je pense par exemple, c'est un exemple, en 2011 à Nantes, radiographie des temps, cette œuvre monumentale installée dans les bâtiments de la fac de médecine.
Oui.
Voilà, qui en Nantes, et on y était il n'y a pas très très longtemps dans cette émission, et on a rappelé justement la mémoire de cette traite négrière dont Nantes était l'une des têtes de pont. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez conçu cette œuvre là?
Mais c'est-à-dire que presque dans toutes mes œuvres, j'essaye que mes œuvres soient des manifestes. Et j'essaye de dire quelque chose d'important pour mon époque. Donc de questionner des phénomènes de société, mais aussi... quand on m'a demandé ce 1%, bien sûr de tenir compte non seulement du bâtiment, mais aussi de tenir compte du contexte, de l'environnement et de l'histoire de Nantes. Et moi qui avais beaucoup travaillé en Afrique et qui ai donc beaucoup apprécié l'Afrique et les Africains, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec justement des images de l'iconographie et à la fois africaine mélangée à ma propre iconographie, donc mixée, mais on pourrait dire je l'ai donné mon hospitalité à l'intérieur de mon œuvre. Que j'ai essayé donc de rendre l'hospitalité qui m'avait été donnée sur place. Et j'ai voulu absolument que mes œuvres de la série des self-hybridations africaines, tout à coup, soient changées en radiographie. Et donc, les noirs devenaient blancs, les blancs devenaient noirs. Et j'en ai fait un énorme plafond, un caisson lumineux, qu'il faut regarder en difficulté puisqu'il faut lever la tête pendant un certain temps pour voir ce qu'il y a dans cet énorme plafond. Et j'avais fait aussi un trou dans le sol pour mettre un énorme aussi caisson lumineux. Et bien sûr, on pouvait marcher sur du verre. Et les gens qui couraient d'un point à un autre, donc souvent de la cafétéria au hall d'entrée, à la porte d'entrée, tout à coup étaient arrêtés dans leur course et devaient regarder sous leurs pieds. Et je trouve toujours très très intéressant de dire qu'effectivement, il faut qu'on regarde où on met les pieds. Il faut qu'on sache que ce que l'on dit, que ce que l'on fait a des conséquences. Et ça, c'est pour moi vraiment extrêmement important. Donc j'ai essayé de le dire matériellement et dans le corps des gens qui passent voir cette installation ou qui sont simplement les usagers de cette université. Les conséquences de nos actes sont extrêmement importantes. Nous devons être tous responsables de ce que nous faisons. On doit savoir pourquoi on le fait. Et pour moi, je suis en train de lutter avec notre société actuellement qui est toujours dans se lâcher et qui valorise se lâcher. Et pour moi, se lâcher, c'est l'horreur. On a vraiment toute sa vie pour essayer de tuer le monstre qui est en nous, et certainement pas de le lâcher. La maîtrise, ce qu'on nous apprend pas dans les écoles, c'est justement ne pas être au premier degré, essayer de chercher l'information, de bien sûr de les comparer, et puis d'en faire l'analyse et la synthèse, et ensuite de se permettre de parler ou de faire un acte. Et quand on voit ce qui se passe sur les chats où il se dit n'importe quoi, n'importe comment, sur l'internet, avec des grands airs ou une agressivité folle, donc moi je pense qu'à notre époque, ce qui est vraiment problématique, c'est effectivement cette idée de se relâcher, de revenir à l'instinct.
C'est pas la liberté, ça. Pourtant, vous êtes une combattante de la liberté de tous les jours.
Mais la liberté, pour moi, c'est pas juste... Alors, j'ai envie de pisser, je pisse par terre. J'ai envie de chier, je chie par terre. Et puis, pour un mec, je bande, elle m'a fait bander, eh bien, je la viole. Non. c'est quelque chose qui se réfléchit et on essaye d'être conscient de ce que l'on fait et de comprendre la conséquence de ses actes.
Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces idées d'hybridation, de self-hybridation, parce que vous l'avez décliné à de multiples reprises, hein, avec des masques de l'opéra de Pékin, avec des visages amérindiens et précolombiens. D'ailleurs, je crois que ça a commencé au Mexique, hein, cette aventure autour des hybridations. Et je voudrais qu'on parle un instant de cette sculpture nommée Bumplode, qu'on a pu découvrir en 2009, hein, à l'abbaye de Maubuisson. C'est une sculpture lumineuse, hein, elle est interactive. Là aussi, elle est hybride entre votre corps à vous, Orlan, et le corps d'une femme africaine. Et elle pose aussi la question de l'exploitation des sols africains et singulièrement du coltan, hein, qui est l'un des composants majeurs des téléphones portables, par exemple. Et on en arrive justement à la fois au traitement de cette hybridation, donc de l'altérité, hein, à travers vos œuvres, avec toujours le recours à cette pensée, à cette technologie, puisqu'il y avait de la fibre optique, hein, dans cette œuvre. Je parle sous votre contrôle.
Et une programmation lumineuse en fonction du nombre de personnes qui étaient dans la salle et à quel endroit ils étaient.
Oui, mais alors justement, vous mettiez en garde, hein, il y a quelques secondes à peine, contre un usage que vous considérez comme abusif des réseaux sociaux, donc de toute cette modernité technologique-là. La technologie, vous l'utilisez en permanence. Est-ce que cette utilisation-là, c'est une manière justement d'alerter ceux qui viennent voir vos œuvres?
Écoutez, moi je suis ni technophile ni technophobe et j'adore vivre notre époque. Je prends un exemple toujours le même. Quand j'étais adolescente, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour j'aurais un androïde dans la poche qui pourrait répondre à mes questions, qui me situerait dans l'espace, qui ferait que je serais jamais perdu et que quand je poserais une question, j'aurais des tas de réponses qui pourraient m'être données. Ça, j'ai jamais imaginé ça et que je pourrais être en contact avec mes amis du monde entier tout de suite. Et donc, les technologies ont du bon, vraiment, et nous ont apporté des choses fantastiques. Simplement, j'essaye toujours de les questionner, de les interroger avec une distance critique. Et là, par exemple, vous parliez de cette sculpture qui annonçait en fait mon Orlanoïde, qui est un robot avec intelligence artificielle, un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix. Et c'était vraiment pour moi extrêmement important de faire ce robot et d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je lui ai donné mon visage, mais mon corps était une sorte de machine, le corps de l'Orlanoïde, et je considère mon corps comme une machine. Et là, les nouvelles œuvres que je suis en train de faire, c'est un travail sur les animaux en voie de disparition, et je les mélange à d'autres robots, mais alors là, des robots qui sont faits entièrement en objets recyclés. Donc effectivement, tout en utilisant les nouvelles technologies, eh bien, je me pose des questions et je pose des questions sur, effectivement, ce qu'ils sont, ce qui se passe, les réactions en chaîne quand tout à coup on utilise les nouvelles technologies.
Mais alors justement, ces nouvelles technologies, vous êtes à chaque fois à la pointe, on dirait même le Minitel par exemple, vous avez aussi produit des œuvres à partir de l'idée du Minitel, les biotechnologies, l'ADN des cellules. Et là, alors là on revient toujours dans le médical, on a l'impression que vous êtes tout de suite à l'affût de ce qui pourrait modifier notre vie quotidienne d'ici quelques années.
Oui,
vous
et
êtes
moi,
dans l'anticipation.
Moi, en tout cas, je suis toujours en éveil. Malheureusement, on peut pas en être en avance sur son temps. On peut être juste en avance sur les a priori, sur les prêt-à-penser, etc. Mais on est, quoi qu'on fasse, on est des chroniqueurs de notre temps. Et là, je suis une chroniqueuse. Donc, effectivement, j'essaye d'interroger tous ces phénomènes de société ou de nouvelles technologies. Et je suis une artiste, effectivement, qui n'utilise jamais les mêmes matériaux ou les mêmes technologies, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est le concept, ce que l'on veut dire, et ensuite de trouver la bonne matérialité, et non seulement la bonne matérialité, mais la bonne manière de le dire par rapport à notre époque. Donc c'est tout un travail d'élaboration pour chacune des œuvres que je fais.
Mais d'où vient votre fascination, Orlan, pour le médical ? L'ADN, les opérations, les cellules, et là, les images de virus aussi que vous avez utilisées dans vos œuvres.
Oui, pour moi, effectivement, j'ai toujours travaillé en fait sur l'interrogation du statut du corps dans la société via toutes les pressions culturelles, traditionnelles, mais aussi politiques et religieuses qui s'inscrivent dans les corps et en particulier dans le corps des femmes. Et quand tout à coup, j'ai découvert les cellules ELA, qui sont des cellules cancéreuses, donc immortelles, qui ont été prélevées d'une femme noire qui est morte d'un cancer de l'utérus, j'ai appris que ces cellules étaient en diffusion complète dans le monde, géographiquement et historiquement, depuis 1800 et quelques. Et tout à coup, je me suis dit, mais je ne travaille le corps et l'idée du corps qu'avec des vieilles idées. Actuellement, ce qui est important, c'est de se dire qu'un corps mort peut fournir des cellules bien vivantes et immortelles sur lesquelles on fait des expériences dans tous les laboratoires, qui sont vendues dans tous les laboratoires et qui maintenant se propagent. C'est comme un corps qui continue à se propager alors qu'il vient d'un corps qui est mort. Et donc ça, tout à coup, ça ouvre les méninges, ça ouvre les neurones, ça agite tout cela. Et on se dit, mais vraiment, là, il y a quelque chose qu'il faut interroger.
Et vous évoquez aussi votre propre mort à vous, parce que vous avez tout prévu. Alors, hein, page 146, je vous cite, « J'ai donné mon corps à l'art, car après ma mort, il ne sera pas donné à la science, mais placé dans un musée, momifié, et sera la pièce maîtresse d'une installation avec vidéo interactive. » Et vous ajoutez, petit codicille important, que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, à moins de créer votre propre fondation. Alors, est-ce que je peux vous demander où vous en êtes de ce projet ?
Alors, je n'ai pas encore créé ma fondation, bien que j'aimerais beaucoup, mais faudrait-il que je trouve beaucoup d'argent, donc c'est toujours des problèmes de ce type qui nous empêche. Mais ça me paraîtrait vraiment très 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 important, moi qui ai tellement travaillé sur le corps, sur l'idée du corps, que effectivement ce corps puisse tout à coup participer à mon œuvre et d'une manière, on pourrait dire, définitive et être à l'intérieur de cette œuvre. Donc toute mon œuvre est entre représentation et présentation. Donc effectivement, ça serait un travail fantastique. Ça serait une belle immortalité.
Oui, c'est-à-dire que la non-croyante et l'athée que vous revendiquez être espère quand même l'éternité.
Alors, je l'expliquerai pas comme ça. Je dirais que Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de pétitions contre la mort. Et je pense.
Il y en a une qui est toujours en ligne sur votre site.
Ah oui, je vous en prie, signez-la. Je pense que si on signe tous ensemble, on a peut-être une chance. Donc, je pense qu'on a accepté de mourir. Et beaucoup de gens ne veulent même pas signer la pétition parce que ils en ont peur, on pourrait dire. Moi, je pense que vraiment, on ne devrait pas accepter notre sort parce qu'on a tiré la courte paille. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines espèces de baleines qui vivent 320 ans. Moi, si on me donnait 320 ans, bien sûr, je ferais autre chose que d'avaler du plancton. Je créerais, j'inventerais des choses. Je ferais que ce que j'ai appris puisse me servir alors qu'on n'a pas assez d'une vie. On apprend des choses, mais tout cet apprentissage, on n'a pas le temps de s'en servir pour produire, pour créer, très peu. Donc, effectivement, je voudrais qu'on vive déjà beaucoup plus longtemps. Regardez les séquoias géants, c'est incroyable. Ils vivent 3000, 3005, il y en a peut-être qui sont jusqu'à 4000. Et nous, c'est une centaine d'années, dont 20 ans, très mauvais état physique et mental. Donc là, il y a un problème et c'est inacceptable, c'est une torture. La vieillesse est une torture abominable. Dès que vous parlez à des gens d'un certain âge et qui ont toutes les maladies possibles et imaginables, et qui se sentent amoindris, c'est l'horreur, c'est une torture, c'est inadmissible. Je ne vois pas pourquoi j'aurais la peine capitale, alors que dans mon pays, justement, on a arrêté avec la peine capitale, et en fait, je n'ai rien fait de mal. Donc là, ça ne va pas, il y a un problème. Il faut absolument signer ma pétition.
Yeah.
as a boy, Björk dans VMDN sur RFI avec Orlan pour son livre Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Chez Gallimard, vous la connaissez bien, Björk.
Oui, vous me faites un énorme cadeau parce que j'adore Björk, mais vraiment, et je n'ai qu'envie de faire un slow avec elle.
Alors, Venus as a boy, on pourrait presque dire, Orlan, je suis un femme et une homme.
Absolument, c'est ce que je dis tout le temps.
Voilà. Alors ces mots-là, donc je suis un femme et une homme, ces mots vous les avez écrits sur une pancarte. Là aussi, c'est un petit manifeste.
Oui, c'est un manifeste. Et en fait, j'adorais aller à des congrès féministes avec cette pancarte. Donc pour moi, effectivement, j'ai toujours oscillé. Et je pense qu'on doit tous gérer son côté homme et son côté femme. Donc voilà, j'ai cette conscience-là et je le porte.
Alors la performance qui vous a fait exploser, si j'ose dire, aux yeux de la critique et du public, c'est le baiser de l'artiste. Hein. Là, on est en 77 et vous dites dans le livre qu'il y a clairement un avant et un après. Vous nous racontez ?
Oui, en fait, dès que j'ai fait cette performance, j'ai été renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais. Je faisais la formation d'élèves animateurs. Et ça a été à la fois un cauchemar et en même temps un happy end, parce que dès que j'ai été par un télégramme renvoyé de mon école, un télégramme qui disait « Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur. Tous tes cours sont suspendus et nous aviserons pour ton compte. » Donc c'était absolument illégal, mais il n'empêche que je me suis retrouvé vraiment mais à la rue, sans assédic, sans rien, et avec vraiment un atelier que je ne pouvais plus payer. Donc j'ai eu les scellés et j'ai perdu beaucoup d'œuvres dans cet atelier.
Mais après, donc c'est un mauvais souvenir, en même temps c'est un succès incroyable.
Ah oui, ça a été un scandale incroyable. Vous savez que la FIAC, l'Argus Presse ne disait plus FIAC, mais disait le baiser de l'artiste. C'est, voilà. Ils n'ont jamais eu autant d'articles.
Alors on va peut-être expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc le baiser de l'artiste c'est une sorte de distributeur automatique de French Kiss.
Oui, mais c'est avant tout une sculpture qui maintenant a été achetée par un frac des Pays de la Loire. Et en fait, c'était une sculpture avec un grand piédestal. D'un côté, il y avait Saint-Orlan. Donc, c'était ma photo de moi travestie avec les draps de mon trousseau, grandeur nature, collée sur bois et détourée, auquel on pouvait mettre à Saint-Orlan, donc, des cierges. Il suffisait d'acheter pour 5 francs un cierge. Et de l'autre côté, il y avait mon buste aussi, en photo, collé sur bois et détouré, avec un sein qui clignotait en rouge, avec effectivement un endroit où on pouvait mettre dans la fente 5 francs. Et on voyait la pièce tomber dans l'œsophage en plastique. Elle tombait entre mes cuisses dans le pubis tiroir.
Un triangle transparent.
Voilà. Et donc, quand je veux réactiver cette pièce, cette œuvre, cette sculpture, je me mets derrière, effectivement, ce distributeur automatique. Et à la FIAC, mon rôle était surtout de gueuler comme un camelot, mais qui n'a pas son petit baiser, un vrai de vrai, parce que c'était pas un mimi enfantin, c'était un French kiss avec la langue, et d'ailleurs, ça se passait au Grand Palais, ça tombait
voilà.
Juste.
Et vous l'avez transporté, hein, cette sculpture sur le toit d'une 4L sous la pluie battante, enfin, c'est vraiment une histoire complètement
romanesque. C'était une épopée incroyable, voilà. Grave. Et donc, j'ai été renvoyé de cette école. Et après, il y a eu plein d'appuyades, parce que finalement, pour un anniversaire de la FIAC a absolument réclamé cette pièce et l'a mis à l'entrée, derrière des vitres, avec sur le mur, en très très grand, la pièce qui a été la plus importante dans l'histoire de la FIAC. Alors que bien sûr, je l'ai faite d'une manière sauvage et que je l'ai imposée au départ.
Une performeuse, Orlan, c'est très différent d'une actrice.
Ah oui. Alors moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et je dois dire que le théâtre m'a sauvé parce que j'avais l'accent stéphanois et il fallait que ça passe, que j'articulais mal, que je n'avais pas une voix forte. Et donc, je recommande à tout le monde, tous ceux qui sont un peu timides ou qui savent mal s'exprimer, de faire du théâtre. C'est technique. Et après quelques séances, tout va mieux.
Oui, on a du mal à imaginer aujourd'hui que vous auriez pu être timide.
Eh bien, oui. C'est ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, je suis toujours aussi timide, mais les gens ne le voient pas. Donc, mon rapport au monde change complètement. Et c'est cet effort qu'il faut faire sur soi-même pour avoir un rapport au monde différent.
Vous a sauvé, mais vous ajoutez aussi, je me suis sauvé du théâtre. À quel moment vous êtes dit, ah ben non, ça c'est pas pour moi, il faut que j'en parte.
Eh bien, un jour, la troupe de théâtre avec laquelle je faisais du théâtre m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir telle comédienne à la Comédie de Saint-Étienne, parce que, et à la fois, elle te ressemble, et puis là, tu verras techniquement ce qu'il faut absolument que tu fasses, que tu atteignes. Et j'y suis allé le cœur battant, et tout à coup, je me suis retrouvé devant quelqu'un qui était dans une espèce d'exagération totale, grave, théâtralisante, avec des tics de théâtreux. Et je me suis dit, ah non, jamais tu vas pas travailler toute ta vie pour obtenir ça. Non. Et tout à coup, au lieu d'être actrice, je suis devenue actante. C'est-à-dire que je me suis mis à faire des performances. Et au lieu de savoir faire, je me suis mis à faire ce que je ne savais pas faire. Et ça, c'est vraiment primordial, parce que dès que vous montrez le petit bonhomme ou la petite bonne femme que vous êtes, avec tous ses ratages, avec toutes ses impuissances, avec toutes ses difficultés, les autres peuvent complètement s'identifier à vous. Et ça devient beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus fort.
Alors la magie du théâtre, elle vous a happé très tôt, hein, Roland, quand vous étiez toute petite, puisque votre père était électricien pour la mairie du côté de Saint-Étienne, mais il travaillait aussi pour le théâtre, hein, un théâtre local. Vous assistiez aux répétitions, aux préparatifs, à certains spectacles aussi depuis les coulisses. On a presque l'impression que c'est le théâtre qui vous a ouvert au monde quand vous étiez jeune.
Ah oui. Si mon père qui avait, et ma famille, peu de capital culturel, n'avait pas fait ça, j'y allais pas tout le temps. Il fallait que je sois très sage et que mon père ait obtenu l'autorisation. Et alors, j'étais caché dans les cintres ou derrière les pendrillons. Et ce que j'ai absolument aimé, c'est cette espèce de corne d'abondance de lumière, de musique, de chant, de... Et puis cette effervescence dans les coulisses de gens qui répétaient, qui s'échauffaient, qui avaient le trac. Et ça, c'était extraordinaire à voir. C'était fantastique. Et d'ailleurs, après avoir vu tout cela, j'avais vu un jour un batteur. Et je voulais être batteuse parce que il faisait de la musique en dansant avec tout son corps. Alors moi, je n'avais qu'une envie, c'est d'être batteuse ou d'être exploratrice. Et finalement, je l'ai été d'une certaine manière.
Alors, vous rendez hommage à votre père. Vous lui avez rendu cet hommage. Je vais y arriver aussi à travers son épitaphe que vous citez, hein, d'ailleurs, également. Tu as mis toutes les lucioles de la terre autour de ton chapeau et tu t'es enfoncé dans la nuit. Je sais désormais d'où viennent les étoiles. C'est d'une poésie absolue. Et pourtant, Roland, ce père que vous admiriez tant, qui a donc tant apporté à la petite fille que vous étiez, à l'artiste que vous êtes devenue, il vous a aussi fait quelque chose d'horrible.
Oui, il a été en tout cas le complice d'un geste abominable sur moi et qui était extrêmement traumatisant. Il avait recueilli à la maison un homme qui, soi-disant, était éjecté de la médecine parce qu'il avait fait des avortements et mon père était pour. Et donc, on l'a reçu peut-être pendant un an chez nous. Et cet homme, de plus en plus, j'étais à une période de ma vie bizarre où j'avais toujours mal quelque part, j'étais fragile, j'avais des vertiges, enfin des choses bizarres, que personne ne trouvait ce que j'avais. Et donc il m'examinait de plus en plus. Et il m'examinait d'autant plus quand mes parents n'étaient pas là pour donner son diagnostic. Et un jour, mon père est venu avec lui dans mon lit, m'a écarté les cuisses, soulevé la chemise et mon père tenait la lampe et le Pépé Veil, comme on appelait ce fameux docteur qui avait été éjecté, non pas parce qu'il faisait des avortements, mais parce qu'effectivement il avait des antécédents du côté pédophile, a enfoncé dans mon sexe une pince à épiler avec un coton au bout. Ce qui était un geste absolument ridicule, absurde et certainement pas médical, qui ressemblait à rien, avec un prétexte bizarre de voir si j'avais mes règles, si je les avais eues, on les aurait vues tout de suite hors de mon sexe. Et donc, ça a été horrible d'être obligé de soupçonner mon père, quoi. Et je m'en suis jamais remise, quoi.
Voilà, et vous le dites, hein, de façon à la fois très, très, très cru, mais très simple aussi, hein, dans le livre. C'est évidemment un moment très, très fort. Comment est-ce que on se remet d'un traumatisme pareil, Orlan ?
On s'en remet jamais. C'est pour ça que les femmes violées, les femmes qui sont passées par l'inceste, ou les hommes qui, les petits garçons qui sont passés par l'inceste ou dans les mains de pédophiles, on s'en remet pas. C'est une atteinte. C'est quelque chose où tout à coup on n'a plus de pare-choc, on n'a plus de bouclier, on a quelque chose d'inquiet, quoi, définitivement inquiet. Comment faire confiance à des gens, à des hommes absolument fantastiques qui tout à coup sont capables d'une minute à l'autre de faire quelque chose qui est absolument abominable et contre vous. Et on ne peut pas s'en remettre, on ne peut pas s'en remettre.
Viens. Plus près. Dansons. De plus en plus près. Moi, tout contre toi.
Échangeons notre humaine chaleur.
Toi. Sur la piste des braises charnelles, les pupilles illuminées d'étincelles sensuelles. Juste toi et moi, c'est super. Viens, dansons, joue contre joue.
Viens,
doucement, tangons, seins contre seins.
S'appelle Eros pour guide. Il a été écrit par vous, Orlan, et interprété avec le groupe de rock Les Tétines Noires.
Voilà.
Qui ont aussi signé la composition et les arrangements, je crois. Et c'est le projet, c'est l'œuvre d'art sur laquelle vous travaillez en ce moment.
Eh bien, après Le Baiser de l'artiste, j'ai voulu faire Le Slow de l'artiste. Parce que, à l'heure actuelle, le slow, ça me paraît quelque chose vraiment thérapeutique par rapport à la distanciation physique que nous vivons. On a tous besoin d'avoir un corps chaud contre son corps dans les bras. Et c'est une chose qui est terrible de ne pas le faire. Et mes assistants, qui sont jeunes, n'ont jamais dansé le slow. Donc, pour moi, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes. Ça me paraît vraiment indispensable qu'il y ait un retour au slow. Donc, j'ai écrit des paroles. J'ai demandé à des musiciens et des musiciennes d'écrire une mélodie. Et j'inclus aussi ma voix dans le morceau. morceaux. Et l'idée est de faire donc des vinyles successifs, comme des teasings successifs, et ensuite un album tout slow pour relancer le slow. Et je travaille avec beaucoup d'autres artistes. Je travaille avec Charlemagne Palestine, je travaille avec Jean-Claude Dreyfus, avec Terre Noire, avec les deux frères stéphanois, comme moi, avec La Femme, avec Régis Campos, Combass, Les Sans Pattes, etc. Et j'en oublie. Et bien sûr, j'aimerais travailler avec Björk et peut-être aussi avec Lavier, que j'ai bien connu à Saint-Étienne.
Eh ben, l'appel est lancé.
Voilà, l'appel est lancé. Et voilà, j'aimerais bien Iggy Pop aussi.
Ah ben c'est pas mal, vous êtes ambitieuse. Ça vous ressemble bien. Mais donc ça veut dire un album, ça veut dire un concert, ça veut dire une tournée.
Un album, et pourquoi pas. Et pourquoi pas une tournée, et pourquoi pas... absolument. Mais en tout cas, il faut redanser le slow, il faut relancer le slow. C'est absolument indispensable. Il faut que les corps se rencontrent, qu'ils ne soient plus à distance.
Voilà, merci beaucoup Orland d'être venu nous faire part de vos souvenirs, de vos projets aussi, et visiblement vous n'en manquez pas, et de nous avoir raconté ce striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Je rappelle que le livre vient de sortir aux éditions Gallimard dans la collection Témoins de l'art. Dans un instant, le journal sur RFI, on se retrouve demain avec Nathalie Riquiel qui rend un nouvel hommage à travers un étrange livre orange à sa maman, la styliste et designeuse Sonia Riquiel. Un recueil de textes et de dessins d'amour retrouvés au fond de ses tiroirs. Le livre s'appelle Talisman à l'image des mères et des filles. Il est paru chez Flammarion et vous m'en direz des nouvelles.
Porte ton corps sur le mien. C'est super. Viens sur le mien. Avec Eros pour guide.
RFI.